Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Après 4 siècles dominés par l'obsession de la seule sécurité nationale, le monde est entré dans un temps plus mal connu, celui de la sécurité globale. Passé d'une lecture nationale de la menace à la découverte des risques systémiques frappant solidairement l'ensemble de l'humanité n'est pas une démarche aisée. C'est ce qu'écrit en conclusion de son dernier ouvrage notre invité d'aujourd'hui, Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à Sciences Po, auteur d'une 30aine d'ouvrages, le dernier à paraître ce 8 septembre, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale aux éditions Odile Jacob. L'approche du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 et l'actualité en Afghanistan placent votre ouvrage au cœur de l'actualité et du besoin que nous avons de la comprendre. Les attentats de 2001, on le rappelle, un tournant, une évolution dans un pays, les États-Unis, dont l'éloignement géographique des champs de bataille semblait valoir sanctuarisation garantie. Ils ont en leur temps été vus, ces attentats, comme une atteinte à la puissance américaine. Aujourd'hui, le retrait, aboutissement d'un processus initié par Donald Trump. On est, Bertrand Badie, dans le recentrage absolu de la stratégie de sécurité sur la nation américaine. Votre regard ?
Oui, on est dans une situation de rupture, et j'y reviendrai dans un instant, mais d'une rupture qui, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Je dirais, c'est une longue agonie d'un modèle sécuritaire qui, lui-même, a une très longue existence. Et quand on est autant marqué par le poids des années et des siècles, on ne meurt pas facilement, on s'éteint doucement. Qu'y a-t-il derrière cela ? Il y a peut-être 3 ou 4 grands éléments qu'il faut savoir distinguer. Le premier élément qui crève les yeux, c'est que la puissance n'est plus le principe majeur des relations internationales. Et ça, c'est quelque chose que les acteurs politiques ont beaucoup de mal à admettre, que les princes de ce monde ont du mal à admettre, tout simplement parce que ils ont été élevés, éduqués, socialisés par l'idée de puissance, mais aussi parce qu'ils ont le sentiment que la puissance leur donne personnellement un rayonnement qu'ils n'auraient pas autrement. Et derrière cette puissance, des images. Entre les États-Unis, un budget militaire annuel de 700 milliards de dollars et un groupe de talibans, qui était le plus puissant ? Ce n'est même pas une devinette. Et pourtant, c'est le plus faible qui a gagné, comme le plus faible gagnait dans les guerres de décolonisation, comme le plus faible a gagné au Vietnam, comme le plus faible a gagné en Irak, a gagné en Somalie et est en train de gagner au Sahel également. Donc, il faut réfléchir. Si les États-Unis ont connu, je dirais, cette débâcle de Kaboul qui va rester dans l'histoire, le 15 août 2021, ce n'est pas tant le fait des États-Unis. On parle beaucoup de déclin américain, je refuse totalement cette formule. C'est pas les États-Unis qui sont en déclin, c'est la puissance qui est en déclin. C'est-à-dire, le monde n'est plus un rapport de puissance. Et c'est pour ça que dans un précédent livre, j'ai dit le monde n'est plus géopolitique. Parce qu'il y a des paramètres plus profonds. Et le deuxième paramètre, alors là, qui a été moins mis en évidence, parce qu'il est moins spectaculaire, mais à mon avis, il est encore plus important. C'est que, je vais vous faire une révélation. Dans la crise afghane, ce qui est important, c'est l'Afghanistan. C'est la société afghane. C'est-à-dire, on parle de ce conflit en des termes stratégiques, en des termes diplomatiques. On ressort cette formule éculée du grand jeu qui opposerait les puissances autour de l'Afghanistan. C'est vrai que les puissances sont autour de l'Afghanistan. Mais là, c'est le cœur malade de l'Afghanistan qu'il faut écouter et qu'il faut entendre battre. Et cet Afghanistan, c'est quoi ? C'est une société qui est morcelée, qui est ethnicisée, tribalisée, communautarisée, mais c'est surtout une société souffrante. L'Afghanistan, c'est un des pays les plus pauvres au monde. L'Afghanistan est, avec le Yémen, comme par hasard, en queue du classement que l'indice de développement humain nous donne des États en Asie. C'est les deux derniers en Asie. Un tiers des Afghanistans, nous dit le PAM, le Programme alimentaire mondial, ne mangent pas à leur faim. Le système foncier afghan est complètement bouleversé, inopérant. Les campagnes afghanes, dont personne ne parle, parce que on s'intéresse beaucoup à la bourgeoisie kaboulie, c'est normal, mais il n'y a pas que. L'Afghanistan, c'est un pays rural, rural essentiellement, une société rurale. Cette société rurale est en situation de désarroi, et 20 ans d'occupation américaine n'ont absolument rien changé à cela. Il faut bien l'avoir en tête. Et cette société afghane, dans ses souffrances, vient créer des tensions, d'une part, mais surtout exprimer un rejet de cette occupation militaire américaine qui fait que personne ou presque ne le dit, mais c'est un fait, les talibans sont acceptés, peut-être par défaut, mais finalement sont lus, considérés, regardés comme étant un moindre mal par rapport à 40 ans de guerre, 40 ans, parce qu'il y a les 20 ans d'occupation militaire américaine, puis avant il y avait l'aventure soviétique, il y avait la guerre civile afghane, et avant il y avait l'aventure soviétique. Et de ce point de vue-là, les détresses de la société afghane dont personne ne parle, parce que quand il est question de détresse, on ne pense qu'aux détresses des Européens qui devront accueillir quelques réfugiés afghans, mais on ne parle jamais, jamais de la société afghane elle-même. Et cette détresse de la société afghane, elle est au centre de ce drame qui se joue. Et l'importance des paramètres sociaux dans la conflictualité mondiale, vous la retrouvez partout. Vous la retrouvez au Yémen, vous la retrouvez au Sahel, vous la retrouvez autour de l'Afrique des Grands Lacs où les choses ne se passent pas très bien en ce moment, dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous la retrouvez en Somalie, et on pourrait ainsi continuer l'énumération. Et puis le troisième élément, c'est un petit peu la synthèse des deux premiers. C'est qu'à partir du moment où la conflictualité change de nature, à partir du moment où la détresse sociale, la souffrance sociale deviennent un paramètre essentiel du jeu international, se mariant avec l'inefficacité de la puissance, il va falloir trouver autre chose. Alors moi, dans mon livre, j'explique que cette autre chose, c'est cette sécurité globale dont nous avons de tous les points de vue besoin, mais pour répondre pour l'instant à votre question concernant l'Afghanistan, il va falloir trouver une solution à cette crise afghane. De même qu'il va falloir trouver un substitut à une politique d'hégémonie menée par les États-Unis, finalement, dans sa phase actuelle depuis 1945, mais je dirais dans ses principes, ce messianisme américain qui pense être en mesure de délivrer tous les peuples de la Terre et qui en fait le principe de sa politique étrangère, depuis déjà deux siècles. Que va devenir cette politique étrangère américaine qui n'est plus hégémonique et que va devenir ce leader qui est désormais un leader isolé? Vous savez que quand il a fait campagne électorale, puis lorsqu'il a été investi, le président Biden a dit qu'il convenait maintenant de réinventer la politique étrangère américaine. Eh bien, que va être cette réinvention? C'est cela aussi l'inconnu de la décennie qui vient, et une inconnue qui frappe tout le monde, c'est-à-dire le monde entier, en particulier les Européens. Les Européens qui ont été complètement marginalisés par les Américains dans cette crise, jusqu'à être humiliés d'un certain point de vue, se demandent passivement aujourd'hui ce qui va sortir de cette boîte noire qui s'est constituée au fil des échecs et au fil de ce décalage entre des politiques poursuivies et un monde qui change, qui n'est plus le même, qui n'est plus celui de 45.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, beaucoup de choses par rapport à ce que vous venez de dire, Bertrand Badie. La première, quand vous évoquez la nécessité de réinventer pour les États-Unis une politique étrangère, cela s'adresse aussi aux Européens. Vous avez mentionné le Sahel. Quelles leçons sont à tirer, d'après vous, de l'Afghanistan pour les Européens, la France en particulier, au Sahel?
Alors, bien sûr, et à raison, on va nous objecter que la situation n'est pas la même. Et c'est vrai qu'il y a une différence énorme, c'est que le mouvement taliban est un mouvement fondamentalement afghan et nationaliste. là où les entrepreneurs de violence qui sévissent au Sahel sont plus d'orientation transnationale, ne correspondent pas à un mouvement nationaliste qui serait par exemple propre à chaque État du Sahel. Donc là, il y a une différence très grande. Mais l'essentiel demeure sur trois points essentiels. Premier point essentiel, le Sahel, comme l'Afghanistan, comme jadis le Vietnam et naguère l'Irak, ce sont des interventions militaires extérieures. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une banalité, je n'apprends rien à personne, c'est que aucune intervention militaire extérieure dans le contexte post-bipolaire n'a pu véritablement aboutir à un succès. Donc les choses sont claires. Et qu'on ne m'objecte pas l'opération Tempête du désert de 1991, car c'était une opération multilatérale menée par consensus onusien pour libérer un État qui était occupé, ce qui est tout à fait différent. Et ce qui explique probablement l'exception de cette victoire que l'on a dit américaine et qui était une victoire multilatérale. Donc, premier point de ressemblance, l'échec de toute opération militaire extérieure. Deuxième point de ressemblance, c'est cette nature, ce fondement profondément social de la conflictualité. C'est-à-dire que l'erreur a été, et elle a été en son temps dénoncée par Barack Obama, c'était de considérer de manière ultra simplifiée cette lutte contre le terrorisme. Et Obama disait, mais le terrorisme, c'est pas un ennemi, c'est un mode opératoire. Et donc, en disant qu'on fait la lutte au terrorisme, on ne ciblait pas un ennemi, ni même un acteur, mais un processus. Donc on était dans l'illusion. Et l'illusion, quelle était-elle? C'était celle d'un choc de puissance. Les puissances démocratiques occidentales face à la puissance terroriste. Il n'y a pas de puissance terroriste. La réalité, c'est que le conflit du Sahel, exactement comme le conflit d'Afghanistan, est un conflit qui dérive, d'une part, d'une décomposition sociale, et au Sahel, cette décomposition sociale, d'un certain point de vue, elle est encore plus dramatique qu'en Afghanistan, et d'autre part, d'un défaut d'institution. Le propre d'une institution, nous le savons dans d'autres sciences politiques, le propre d'une institution, c'est d'organiser la société. Et lorsqu'une société est en décomposition sociale et qu'elle n'a pas de principe organisateur, cette décomposition, elle va encore plus vite. Bon. Et derrière ce constat de la nature sociale de ce conflit, au Sahel, la conflictualité, elle est alimentée par cette question foncière que j'évoquais déjà à propos de l'Afghanistan, par cette rivalité entre pasteurs et cultivateurs, par l'effet de la désertification. Au Sahel, la désertification, c'est 10 cm par heure, par l'effet également de l'extrême pauvreté, de la faiblesse du développement humain, et par l'effet d'une sous-institutionnalisation dramatique. Tous les paramètres de ce point de vue-là se ressemblent. Hein. C'est intéressant de voir que le changement climatique, la désertification, touche autant l'Afghanistan que le Sahel, infiniment plus que les pays développés. Il faut pas l'oublier, il faut avoir ça en tête. Et de ce fait, face à ces paramètres sociaux qui génèrent une situation d'instabilité, d'incertitude, de précarité, qui créent des appels naturel à la violence et aussi une sorte de résignation de se dire mais si les talibans ou les djihadistes au Sahel peuvent nous nourrir, ben c'est bon à prendre plutôt qu'un État qui est corrompu et qui s'occupe pas de nous. Ça, c'est un paramètre extrêmement important, mais c'est surtout la découverte que face à cette dramaturgie sociale, le canon est impuissant. Le canon, il marche contre le canon, mais il ne marche pas contre des lambeaux de société. Et ça, c'est une chose que nous n'arrivons pas à comprendre depuis notre perchoir occidental. Et puis, il y a une troisième ressemblance aussi, c'est cette confiance naïve ou faussement naïve. J'arrive pas à partager entre ces deux visions de l'État intervenant dans l'État client. C'est-à-dire croire que cet État client est un substitut à l'État qui intervient et qu'il pourra se retirer cet État intervenant à mesure que cet État client prendra sa succession. D'où, effectivement, cette naïveté qui est encore apparue dans le dernier discours de Biden, qui disait « mais l'État afghan n'a pas fait son travail ». Ben, l'État afghan, il n'a pas fait son travail parce que c'était un État fantoche. Il ne peut pas y avoir d'État client. Quand vous êtes une puissance interventionniste, l'État dans lequel vous intervenez devient un État client, précaire, faiblement légitime, faiblement institutionnalisé et surtout principalement corrompu. Parce que, bah, monsieur de la Palice vous l'expliquerait très bien, si vous êtes un État client, vous dépendez de l'aide extérieure, et si vous dépendez de l'aide extérieure, vous instrumentalisez cette dépendance à des fins qui vous sont propres. Voilà. Et donc la redistribution ne se fait pas, et l'armée est non seulement inexistante, mais souvent néfaste, parce que c'est une armée qui est mal payée, qui est donc corrompue, et qui étant corrompue, se paye sur la bête, et généralement, ça se traduit par des pillages au sein de la société, si bien que la société, ni afghane ni sahélienne, n'aime particulièrement son armée nationale. Donc, ça, c'est les trois éléments de comparaison. Alors, on pourrait en amorcer un quatrième, c'est que, effectivement, le président Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane. Il y a comme un parfum de retrait. Ben, il faut peut-être méditer sur la préparation de ce retrait et méditer l'expérience de Kaboul été 2021, qui de ce point de vue est très parlante. C'est sidérant de penser à quel point ce retrait a été mal pensé, mal géré, mal préparé, même si mardi dernier, Joe Biden nous a répété 35 fois que c'était un grand succès.
Et annoncé tout de même depuis plusieurs mois, lorsque les Européens ont préféré faire l'autruche et laisser passer ce type de déclaration. En tout cas, il avait été annoncé ce retrait. Quelques mots avant la fin de cette première partie, Bertrand Badie, sur la question du terrorisme. Il y a terrorisme, peur politique. Est-ce que finalement, on a une vision trop politique du monde. Le terrorisme, vous dites qu'il ne figure pas au premier rang statistique des risques sécuritaires les plus menaçants, mais qu'il continue d'entretenir, on l'a bien compris, l'essentiel de la peur contemporaine et à cristalliser l'agenda du système international qui trouve l'alibi du conservatisme. Tout se tient ?
Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui me surprend en tant qu'analyste. La faim dans le monde, dont personne ne se préoccupe sérieusement.
Fin FAIM.
FAIM, oui, exactement. C'est 9 millions de morts par an. C'est aujourd'hui pratiquement presque 1 milliard d'individus en situation d'insécurité. Et 9 millions de morts par an. Le terrorisme, selon les années, puisque c'est très fluctuant par définition, c'est entre 10 000 et 40 000. Alors, on a une peur. Terrorisme et peur, c'est la même racine, n'est-ce pas ? Du terrorisme, on prend quantité d'initiatives, ça devient obsessionnel dans le discours diplomatique, on vous fouille à l'entrée de n'importe quel bâtiment. Alors que, quand je dis qu'il y a 10 à 40 000 victimes du terrorisme, 80-90%, c'est au sud, pour le nord, c'est-à-dire quand même assez peu. Et on ne se rend pas compte que ce qui devrait se faire peur, c'est l'insécurité alimentaire, 9 millions de morts, et vous allez voir qu'avec le Covid, ça va augmenter. De même que le changement climatique, l'OMS nous dit que c'est à peu près 8 millions de morts par an, et là aussi c'est en augmentation, ça va être bientôt 10 millions, et puis même pas la peine de donner un chiffre en ce qui concerne la crise sanitaire. C'est-à-dire que les vraies menaces ne sont pas les causes des vraies peurs dans notre monde actuel. De l'opinion publique, mais aussi des dirigeants. Lorsque on débat très rarement et très superficiellement du changement climatique au Conseil de sécurité, en 2019, le délégué russe, monsieur Vassili Nebenzia, dit « il est contre-productif de parler en cette enceinte du changement climatique », ignorant que derrière toutes les guerres contemporaines, il y a l'effet néfaste du changement climatique. Toutes, y compris l'Irak, y compris la Syrie. On a pu montrer justement comment la transformation de la société syrienne liée au changement climatique avait pesé sur le début de cette guerre. Mais c'est encore plus évident en Afghanistan, encore plus évident au Sahel. Bon, ben, monsieur Nebenzia nous explique que c'est contre-productif d'en parler. Inutile de vous dire la tête que faisait le délégué des îles Maldives ou des îles du Pacifique qui sont menacées de disparition par le changement climatique. Hein, ils devaient considérer, eux, que c'était plutôt productif d'en parler.
On poursuit et on vous retrouve, Bertrand Badie, après le journal. À tout de suite.
Priorité santé. Car... Géopolitique. Marie-France Chatin.
Nous retrouvons Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po, auteur d'une trentaine d'ouvrages, le dernier à paraître ce mercredi 8 septembre, « Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale » aux éditions Odile Jacob. Bertrand Badi, vous dites que la mondialisation a porté de nouvelles formes d'insécurité, vous dénoncez le manque de renouvellement de la vision pour lutter contre l'insécurité. Les risques aujourd'hui, vous les avez rappelés à la fin de la première partie de l'émission, ce sont les pandémies, insécurité sanitaire, paramètre majeur des peurs mondiales depuis le printemps 2020 avec la Covid. Les risques environnementaux, vous parlez de particularités de la question environnementale, 8 millions le nombre de ces victimes annuelles. Insécurité alimentaire, premier des fléaux meurtriers au monde, 9,1 millions de décès par an. Vous nous le disiez, les sonnettes d'alarme sont tirées depuis longtemps, vous les citez. J'en reprends quelques-unes. Les objectifs de développement durable, avec le rapport produit par la commission Zedillot-Tian, qui distingue 6 domaines cruciaux d'intervention et place en première position dès 2006, il y a 15 ans, le risque constitué par les maladies contagieuses, suivi du réchauffement climatique, de l'instabilité financière, du renforcement désordonné du commerce international, du manque de sécurité collective et du partage insuffisant des connaissances. Aucune suite n'a été donnée à cela. C'est toute l'utilité aussi de votre livre, Bertrand Badi.
J'espère qu'il sera utile, parce que l'urgence devient vraiment très, très, très forte. Mais vous avez raison de citer cela, c'est probablement les incitations récentes les plus vives, mais cette histoire, elle commence au 19e siècle, il ne faut pas l'oublier. Dès le 19e siècle, le monde qui était en train de se former, qui était en train de dépasser la simple Europe, qui se croyait seule, le monde voyait monter les périls. Avec les progrès de la navigation maritime, dès le 19e siècle, on s'est posé la question de ces maladies qui voyagent d'un continent à l'autre. Dès le 19e siècle, on a été alerté sur les besoins d'un régime mondial de la santé. Dès la seconde moitié du 19e siècle, des premières conventions en matière sanitaire ont été négociées. Et là, on a vu, dès cette époque, c'est-à-dire maintenant, il y a presque 200 ans, on a vu les premières résistances étatiques. C'est-à-dire, on peut s'entendre empiriquement sur tel ou tel point, pas question de normes sanitaires universelles. Et je raconte dans mon livre comment cet Office international de l'hygiène publique qui a été institué par besoin tout au début du XXe siècle a été repoussé par Wilson lui-même en disant non, pas question de l'intégrer dans la société des nations. Et donc on a vu apparaître ces besoins au fil du temps en matière sanitaire. En matière économique aussi, il faut pas l'oublier. Bretton Woods, c'était ça, c'est-à-dire 1929 a montré que le monde tout entier pouvait s'effondrer par défaut de régulation économique. Donc on va créer de la régulation économique. Et on a vu, j'essaye de montrer dans mon livre, comment Bretton Woods a été immédiatement sur le champ phagocyté par le jeu des intérêts d'une nation, la nation américaine, qui l'a emporté sur un projet plus globalisant dont Keynes était porteur et qui a été mis en minorité par le délégué américain, secrétaire au trésor de l'époque. Et ce mouvement-là, il est perpétuel. C'est-à-dire que à mesure que nous découvrons une sécurité globale, ce que j'appelle une sécurité globale, je le rappelle, c'est cette sécurité qui concerne non pas un État, mais l'humanité tout entière, eh bien, cette sécurité globale est comme nationalisée par les États. Alors, on comprend, et on comprend dans l'urgence qu'un gouvernement prenne d'abord soin de la survie, du salut de ses citoyens. Mais sans avoir conscience que ce mouvement de nationalisation retarde la prise en compte de la nature globale de la menace et peu à peu deviennent contre-indiqués. Très vite à propos du Covid, on en voit l'application. Moi, je pensais naïvement, dans ma naïveté de professeur tournesol, je l'ai dit dès mars 2020, que l'on allait se hâter de réformer l'OMS pour lui donner les moyens de gérer à un niveau mondial la crise du Covid. Aucun projet, rien n'a été fait de ce point de vue-là. Ce sont les États Et même à l'intérieur de l'Europe, les États qui ont pris l'initiative en la matière. Ça veut dire quoi? C'est qu'en nationalisant ce danger, on l'a dénaturé. Et la campagne de vaccination en est le meilleur des témoignages. On s'est précipité pour vacciner les nationaux en laissant les plus pauvres de côté. Vous savez qu'il y a à peine 2% des Africains qui se trouvent vaccinés. Ce qui veut dire quoi? Eh bien que à terme, et hélas probablement à très court terme, de nouveaux variants vont apparaître en Afrique. Vous savez que très récemment, on en a découvert un nouveau en Afrique du Sud, et que ces nouveaux variants vont revenir vers les pays riches qui vont être à nouveau frappés. C'est-à-dire que non seulement l'égoïsme est éthiquement contestable, plongeant dans la souffrance des millions, peut-être des milliards d'êtres humains qui sont moins bien dotés que nous, mais cet égoïsme, il est également irrationnel et contre-productif pour nos intérêts propres dans la mesure où ces problèmes globaux ne peuvent être traités que globalement. Si vous ne traitez pas globalement les problèmes climatiques, les problèmes sanitaires, les problèmes alimentaires également, c'est pas parce qu'on crève de faim essentiellement dans d'autres continents que la faim dans le monde n'est pas un phénomène global. C'est un phénomène global qu'il faut traiter globalement. Eh bien, tout ce qu'il y a d'institutions actuellement, et notamment aux Nations Unies, résiste à cette globalisation. Je pense que c'est un danger énorme, une irresponsabilité tout à fait scandaleuse de la part de nos dirigeants.
Surtout que aujourd'hui, Bertrand Badi, on n'est plus dans ce que vous appelez l'ignorance de la nature systémique des enjeux contemporains de sécurité que vous évoquez pour expliquer les blocages. On est informé, on sait. On n'agit pas. Vous parlez de l'ONU. Vous dites qu'elle risque, l'ONU, de voir son système éclater en deux entre des agences spécialisées qui deviennent comme dépositaires de la sécurité globale et le centre du système qui demeure souverainiste, attaché à la vieille culture de sécurité nationale. En tout cas, vous parlez d'égoïsme. On est toujours dans cette compétition à tout craint par opposition à une coopération aujourd'hui rendue bien nécessaire, on l'a compris.
Oui, parce que finalement, les Nations Unies, dans ce qu'elles ont de nécessaire, de nouveau et d'inédit, reproduisent les vieux schémas. Lorsque Woodrow Wilson, qu'on présente à tort comme étant l'inventeur du multilatéralisme, dans son 14e point, janvier 1918, des réformes qu'il attendait du monde post-guerre, parlait de ce projet de société des nations, il parlait d'une association de nations. Or, cette association de nations, ça veut dire une association de puissance. Lloyd George, le premier ministre britannique qui était présent dans cette négociation de Versailles, disait « mais il s'agit de prolonger le concert des nations », c'est-à-dire cette alliance de puissance, ou en tout cas cette connivence de puissance. Or, le problème n'est plus dans l'association des nations, mais il est dans l'incarnation de l'idée d'humanité. Lorsque les Nations Unies ont inventé ce concept de développement humain, c'est bien ça qu'ils avaient en tête. C'est pas le développement des nations ou des États-nations, c'est le développement de l'humanité dans tout ce qu'il a, comme vous le dites fort bien, de systémique. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les secrétaires généraux des Nations Unies, depuis Pérez de Cuellar, mais surtout depuis Boutros Ghali et essentiellement Kofi Annan, le grand Kofi Annan, ont été convaincus de tout cela. Et les secrétaires généraux, y compris ceux qui ont suivi, Ban Ki-moon et Antonio Guterres, militent pour cette cause. Et il y a plein de commissions, vous le rappeliez tout à l'heure, qui ont milité pour cette cause. Et il y a des agences qui sont complètement dévoués à cette cause et qui font un travail extraordinaire. Le PNUD fait un travail extraordinaire. La FAO, le PAM, l'OMS, qu'on critique tant, l'UNICEF, ils font un travail extraordinaire. Mais c'est de l'ordre du non-contraignant. Le temple de l'ONU reste le Conseil de sécurité qui reste attaché à une vision ringarde de la sécurité et donc qui n'a plus de prise sur l'événement tel qu'il se produit actuellement, ou pire encore, qui transforme, transfigure, défigure l'événement pour le mettre à l'échelle de la puissance, c'est-à-dire rendre inopérationnel les remèdes que l'on va superbement voter dans des résolutions du Conseil de sécurité. Il faut en finir avec ça.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Vous parlez d'addiction géopolitique. Alors, vous posez, Bertrand Badie, la question essentielle de savoir ce qui compte aujourd'hui dans notre monde mondialisé. Faire mieux que le voisin ou faire bien dans un monde global. C'est une autre façon de dire ce que vous évoquez depuis le début de cette émission. J'aimerais qu'on parle rapidement, mais suffisamment, des pays émergents. Vous citez l'exemple du Brésil qui a été, sous Lula, un pays assez novateur dans sa volonté d'interaction sud-sud. Et malheureusement, on en est aujourd'hui avec Jair Bolsonaro, dont les visions du monde sont aux antipodes de ce qui a prévalu avec Lula.
Oui, alors c'est très intéressant le problème des émergents. Je consacre un chapitre à cette question dans mon livre, parce que les émergents sont comme tiraillés entre deux exigences contradictoires. Les émergents ont compris avant tous les autres, c'est-à-dire les vieilles puissances en particulier, tout l'avantage que représentait pour eux la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est finalement l'aubaine qui retirait tout monopole aux vieilles puissances et qui leur donnait donc la possibilité d'exister dans un monde dont ils avaient tout intérêt à montrer la réalité et l'incarnation. Et ça a donné le Brésil de Lula, mais ça a donné aussi la Chine de Deng Xiaoping et de ses successeurs immédiats, ou l'Inde, je dirais, post-Nehru, c'est-à-dire effectivement des acteurs d'une mondialisation militante dont ils savaient qu'ils en avaient besoin et qu'elle pourrait servir à leur promotion. Et puis, en même temps, il y a chez les émergents, qui se comparent au monde antérieur, une volonté fébrile de maintenir leur souveraineté. C'est-à-dire que leur appétit pour la mondialisation se combinait étrangement avec une sorte de souverainisme frileux et même jaloux. Et du coup, ce souverainisme est venu tempérer leur ardeur militante en faveur de la mondialisation et a opéré partout, chez tous les grands émergents, un phénomène de retournement. C'est le passage de la Chine Deng Xiaoping à la Chine Xi Jinping. C'est le passage de l'Inde de Rao et de la période d'ouverture à l'Inde de Modi, ultra-nationaliste et identitariste. C'est le Brésil, le mouvement de bascule du Brésil de Lula à Bolsonaro, c'est-à-dire de cette coopération sud-sud qui était effectivement un vrai modèle à cette espèce de national-populisme dont il est porteur. Donc, moi, je ne pense pas, personnellement, que dans un premier temps, du moins, le renouvellement viendra des émergents à cause de cette tension trop forte entre souverainisme et mondialisation. Il y a un troisième groupe sur lequel j'achève ce livre, qui est des États qui ont peut-être dépassé, et depuis longtemps, ce stade de l'émergence, et qui, soit contraints, soit par choix délibéré, vont vers la mondialisation et sont en train d'inventer autre chose.
Ce sont l'Allemagne et le Japon, notamment, mais oui, pas notamment. Seulement.
Pas seulement, parce que je mettrai aussi la Corée du Sud, à laquelle on ne s'intéresse pas suffisamment, alors que c'est un modèle de politique étrangère et de réussite dans la mondialisation qui mérite d'être souligné. Peut-être d'autres pays. Il faut suivre notamment les évolutions récentes d'un pays comme la Nouvelle-Zélande, dont personne ne parle et qui mérite l'attention. Et puis d'autres pour lesquels c'est plus qu'à autant. Mais je vais pas. On n'en est pas à l'époque de faire les Jeux olympiques des États. On peut pas faire un classement des États dans leur mondialisation réussie. Ce sont des tendances, ce sont des pulsions. Et là, de ce point de vue-là, ben oui, c'est vrai que la diplomatie allemande, la diplomatie japonaise, la diplomatie sud-coréenne, la diplomatie néo-zélandaise réussit des performances que les vieilles puissances ne savent pas réaliser et accomplir.
Alors, Bertrand Badie, la puissance, vous la définissez aujourd'hui comme cette capacité à avoir prise sur l'événement. Il y a donc un renversement, un bouleversement. Est-ce qu'il y a un État qui vous paraît à même de porter les réformes qu'il faudrait porter aujourd'hui dans le monde et quelles sont, d'après vous, les capacités requises pour agir avec succès sur la scène internationale?
Alors, vous savez, la puissance, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Il y a la bonne puissance, c'est-à-dire celle qui réussit, qui a de la capacité qui est performante et puis a la mauvaise puissance, celle qui échoue. On a commencé cette émission en montrant comment la puissance classique, au sens classique du terme, n'a plus de prise sur l'événement. L'exemple afghan le montrant aux dépens de la puissance militaire américaine. La puissance militaire, effectivement, est une puissance qui ne fonctionne plus, qui n'a plus de performance. Alors qu'il y a des formes nouvelles de puissance qui montrent leur capacité parce que, justement, ce sont des puissances qui ne cherchent pas à contraindre par la force, il n'y a plus de rapport de force, ce sont des puissances qui essayent de tirer le maximum d'avantages de la mondialisation. D'avantages combinés pour tous et pour soi-même. On n'est pas altruiste, l'Allemagne n'est pas un pays altruiste, un pays qui se sert et qui se sert très bien, mais qui le fait dans l'intelligence de la mondialisation et qui tire donc de la mondialisation l'essentiel de ses ressources. Alors, quelle est la recette pour réussir ? On voit très bien ce qui a favorisé l'Allemagne et le Japon. Paradoxalement, c'est la défaite de 1945, c'est-à-dire leur démilitarisation. Et donc, l'idée d'être en quête, ce qui a été leur cas dès après 1945, d'une forme nouvelle de puissance qui ne passe plus par les forces armées, mais qui passe par l'intelligence de la mondialisation, l'intelligence de l'événement, c'est-à-dire la capacité de réaliser dans un contexte donné des résultats sans considérer que l'un des instruments de réussite sera une façon de s'affirmer au-dessus des autres. Ce qui est formidable pour l'Allemagne, c'est qu'elle s'affirme au-dessus des autres sans avoir besoin de le dire. Et ça, c'est un signe de maturité.
C'est de l'humilité,
Bertrand. C'est ce que j'appelle, et c'est pas moi qui l'appelle ainsi, ces deux ministres, l'un japonais, M. Okada, et l'autre allemand, M. Westerwelle, au début de ce siècle, qui appelait ça la diplomatie modeste, et qui disait quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il disait, mais pour réussir dans un monde mondialisé, il faut être modeste. Alors que c'est tout le contraire chez les dirigeants des vieilles puissances qui croient que réussir, c'est s'affirmer, c'est être présent partout, c'est être présent en Afghanistan, c'est être présent au Sahel, c'est être présent au Liban, c'est être présent là où il se passe quelque chose. Non, réussir, c'est un travail en silence. Je me souviens toujours d'un journaliste allemand qui me raccompagnait à mon hôtel lorsque j'étais en colloque à Doha et qui me disait, vous savez, la grande différence entre vous, Français, et nous, Allemands, c'est que nous, on n'embrasse pas.
Traduction, Bertrand Badis.
Traduction, ça veut dire il n'y a pas de fioriture, on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de grandes démonstrations. Mmh. Une bonne diplomatie aujourd'hui n'a pas besoin d'être démonstrative, au contraire, c'est contre-productif, mais elle a besoin d'efficacité, elle a besoin de résultats. Et cette diplomatie des résultats vient, je crois, prendre le pas sur la diplomatie de l'affichage. Le résultat est plus important que l'affichage. Alors, c'était pas forcément vrai autrefois. C'est là le piège. C'est-à-dire, autrefois, l'affichage était nécessaire. C'est-à-dire, pour réussir dans le monde, il fallait montrer sa force. Il fallait être Monsieur Muscle. Et c'est Monsieur Muscle qui gagnait l'hégémonie. Aujourd'hui, non. Il faut pas être Monsieur Muscle, il faut être Monsieur Smart. C'est différent.
En tout cas, la question de la place du militaire dans les relations internationales pourrait faire l'objet d'une émission à part entière. Très rapidement, Bertrand Badis, une nouvelle carte du monde est en train de sortir de ce que nous avons dit là.
Ça rejoint le début de notre émission, c'est-à-dire effectivement, les vieilles politiques étrangères vont être nécessairement remisées. C'est-à-dire que je ne vois pas les États-Unis poursuivre sur la lancée d'hier. Ce n'est pas possible et ça va devenir trop coûteux. Vous savez, il y a deux choses qui font changer d'avis les politiques. C'est la peur ou l'utilité. Maintenant, la peur, c'est la peur de perdre. Et l'utilité, c'est celle de faire des économies par rapport à des dépenses inutiles. Ça ne veut pas dire que le métier militaire soit terminé, hein, pas du tout, au contraire. Mais il va falloir le repenser, le réinventer.
Merci Bertrand Badis. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage à paraître donc ce mercredi 8 septembre, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale aux éditions d'Il Jacob. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo, Yasmine Boulan et Nathalie Laporte. À samedi prochain.